Allô? Le baptême. Au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, c'est Jean le Baptiste qui parle, puisque c'est lui qui a été envoyé pour introduire cette pratique du baptême. Et il s'adresse à ceux qui viennent vers lui, au chapitre 3, verset 14, je lis bien, 11, c'est ça ? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà ce qu'annonçait Jean et ce qui s'est accompli le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2, les premiers versets. Eh bien, nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'eau du baptême annonce le baptême de l'Esprit Saint, Esprit qui également contient le feu, le Saint-Esprit est de feu, le feu qui purifie. Et ce sont des langues de feu qui se sont posées sur les apôtres le jour de la Pentecôte, les disciples en fait réunis. Et donc le Seigneur veut faire une œuvre en nous par le Saint-Esprit, en nous remplissant de son Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes actuellement dans le temps de l'Esprit-Saint. Nous ne pratiquons pas seulement des gestes rituels à travers des symboles, nous vivons des réalités, une réalité spirituelle. Alors, aujourd'hui, le Seigneur désire que nous ouvrions nos cœurs à l'action et à la présence de son Saint-Esprit pour en être remplis. Nous sommes vraiment dans le temps du ministère de l'Esprit et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va faire cette démonstration au chapitre 3, verset 6, au sujet de leur ministère à eux. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, qui est contenue dans la loi, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie, donne la vie. S'il n'y a pas l'esprit qui est là à l'œuvre, la lettre de la loi vient pour amener la condamnation sur toute forme de mal et de péché dans nos vies, mais sans nous en délivrer. Tandis que l'œuvre de l'esprit, c'est de mettre en nous la vie, la grâce, la puissance, la connaissance vivante de Dieu. Les versets 7 et 8 du même chapitre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, donc le ministère de la loi, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, qui leur a amené cette loi, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Le ministère de l'Esprit. L'Esprit qui nous fait connaître la grâce que Dieu nous accorde. L'Esprit qui nous fait connaître la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dieu, notre Père, à tous, a été à l'œuvre dans la création et la rédemption. Il avait en quelque sorte le plan, la sagesse, la volonté. Il a tout créé selon sa puissance et sa sagesse. Et puis, Dieu le Fils a agi avec le Père en notre faveur, en donnant sa vie pour nous. Il a accompli toute cette loi sainte et tout le plan et toute la volonté de Dieu en donnant sa vie à la croix pour nous. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, est à l'œuvre maintenant en nous, avec nous, conduisant l'Église, réalisant le plan parfait jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous sommes dans cette dispensation de l'Esprit de Dieu, depuis la Pentecôte et jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous sommes sous la conduite, dans le ministère de l'Esprit, qui révèle la parole, qui crée l'attente de Dieu, qui fait connaître le Fils, qui a la puissance de la régénération, en activant en quelque sorte la semence de la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous avez été régénérés par la parole vivante de Dieu. Mais comment est-ce que cette parole a pu devenir vivante en nous? Par l'action du Saint-Esprit. Il est la force sanctifiante selon sa nature même. Il est l'Esprit Saint. Il opère, il équipe, il instruit, il unit les croyants. C'est en fait l'Esprit, c'est Christ en nous qui nous révèle le Père. L'Esprit, c'est Christ en nous qui nous montre nos frères, qui nous désigne et qui nous tourne vers nos frères. L'Esprit Saint, c'est la réalité de Dieu aujourd'hui, dans nos vies. C'est lui qui fait en quelque sorte les communications de Dieu. Nous sommes dans un temps, très fort, dans une période, un temps de l'histoire qui est le temps des communications. Eh bien, dans le domaine spirituel, le Saint-Esprit, c'est celui qui fait les communications de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu parle. Il ne parle pas à tous de la même manière, mais il parle. Et nous devrions ouvrir nos oreilles selon ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous devrions ouvrir nos oreilles en lui demandant de nous parler plus audiblement encore que nous ne pouvons l'entendre naturellement. Le Seigneur veut communiquer les pensées de Dieu à nos esprits, à nos cœurs, et pour cela, il doit nous parler. Et concrètement, dans l'expérience des apôtres, l'Esprit parlait. Dans ce chapitre 8 que nous avons lu de l'Eunuque éthiopien, il est écrit « L'Esprit dit à Philippe, approche de ce char. » Il est aussi dit plus loin au sujet de Pierre, « L'Esprit dit à Pierre, lève-toi, descends et pars avec eux. » Une communication de l'Esprit, une parole de l'Esprit. Pendant qu'il servait le Seigneur, il est dit aussi, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quant à ses actions, sa puissance, savons-nous encore ce qu'il fait? Acte 8, 39, et l'Esprit enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Voilà, là c'est du concret concernant sa puissance d'action. L'Esprit enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc je ne veux pas vous frustrer ou vous décourager de ne pas avoir de telles manifestations de l'esprit, moi pas plus que vous. Mais sachons bien que l'esprit, c'est Dieu, Dieu vivant. L'esprit, c'est Dieu puissant. L'esprit, c'est Dieu opérant, agissant. L'esprit, ce n'est pas quelque chose de vague, d'indéfini. Non, non, l'esprit, c'est Dieu à l'œuvre, au milieu de nous. Mais pour le voir agir, pour le recevoir, pour l'entendre, il faut déjà le désirer, bien entendu, dans ce qu'il est et dans ce qu'il veut. L'esprit, c'est l'esprit de vérité. Il est la vérité. Donc il ne va pas vous communiquer autre chose que tout ce qui est du domaine de la vérité. Si vous cherchez autre chose que la vérité, rien ne vous sera communiqué par l'esprit. L'esprit est la vie, il donne la vie, il est l'esprit vivifiant. Tout ce qui est du domaine négatif, du domaine du découragement, du domaine des ténèbres, tout cela, ce n'est pas le lieu où l'esprit agit. L'esprit agit pour la vie. L'esprit est éternel, tout simplement. Il est l'esprit éternel. Il ne change pas, il agit depuis l'éternité et jusque dans l'éternité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il est l'esprit de Dieu, tout simplement, la plénitude, la liberté, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. En Dieu, il n'y a aucune ombre, aucune restriction. Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. Il est la plénitude de toute chose. Donc, ce que nous recevrons de l'Esprit, et là j'ai nommé quelques réalités de l'Esprit, mais tout n'est pas dit là. Mais si nous cherchons l'Esprit pour ce qu'il est, il va pouvoir venir à notre rencontre, il va pouvoir nous agir en nous, nous parler. Mais surtout, ce qu'il veut. Que veut l'Esprit au fond? Que fait l'Esprit? Au service de quoi est-ce qu'il agit? L'Esprit veut que la connaissance de Dieu recouvre toute la terre. Selon la parole du prophète Habacuc, je vous lis quand même dans le texte Habacuc, donc chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Je ne sais pas si Margot a entendu ce chant en anglais en étant sur le bateau, mais c'était du temps où j'étais à Opération Mobilisation, le chant qui était chanté par une très belle chorale, je l'ai encore en cassette, « For the earth shall be filled by the glory of the knowledge of the Lord. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. » For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Voilà, c'est un chant qui m'a marqué concernant le témoignage en fait d'Opération Mobilisation qui s'adresse à toutes les nations. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et c'est ça que veut l'Esprit, c'est ça que fait l'Esprit. il veut répandre la connaissance de la gloire de l'Éternel sur toute la terre. Il veut réaliser la plénitude de Dieu en tous et en toutes choses. Et pour cela, il a comme mission très précise de préparer une épouse pour le Fils. C'est là la mission de l'Esprit. À l'instar de ce que le serviteur d'Abraham a été chargé de faire. Abraham appela son serviteur et l'envoya, lui dit, mets ta main sous ma cuisse, jure, va chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur est parti et il est revenu avec une épouse pour Isaac. C'est le ministère de l'Esprit. Voilà ce que fait l'Esprit. Il est en train de rassembler tous ceux qui font partie de, qui forment l'épouse de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que, à cause du don de sa vie, le Fils a été élevé et a reçu toute la plénitude de Dieu. C'est dans Colossiens. Jésus-Christ a donné sa vie et ensuite il a été élevé et il est dit dans Colossiens, car en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ. Par conséquent, personne ne peut goûter à la plénitude de Dieu en dehors de Christ. Et Dieu veut la plénitude pour ceux qui aiment son Fils, qui est l'expression de son amour tout-puissant. Donc, le Saint-Esprit est chargé, toute sa volonté, toute son œuvre, c'est de nous joindre au Fils, de nous permettre d'être trouvés en Christ, pour que nous formions le corps de Christ, l'épouse qui sera unie à lui pour l'éternité et qui va refléter là toutes les gloires et la plénitude de Dieu. C'est la mission du Saint-Esprit, de former sur la terre, en choisissant, en équipant, en sanctifiant les disciples, de former l'épouse de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, l'Esprit parle aux églises et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et lorsque tout est prêt, l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est la conclusion de la Bible. Parce que l'épouse est prête, l'épouse s'est préparée et elle a revêtu le fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, œuvres qu'on ne peut aucunement accomplir sans le secours de l'Esprit. Alors, voilà, l'Esprit n'est au service d'aucun projet humain. Tournez-vous partout sur toute la terre, voyez tous les projets qui peuvent se faire dans l'humanité. L'Esprit n'est au service d'aucun de ces projets. L'Esprit n'a que le projet du Père et celui de Christ de sauver et de reconstruire en Dieu ce qui a été ruiné par l'entreprise diabolique. Voilà ce que fait l'Esprit, c'est sa mission. Alors, laissez-vous contacter par l'Esprit. Laissez-vous visiter par l'Esprit, recherchez l'Esprit, attendez-vous à lui. Je dirais, pour parler le langage actuel, mettez-vous sur son réseau. Les réseaux des hommes sont tous des réseaux de mensonges. Le réseau de l'Esprit est la vérité. C'est lui qui nous prépare pour la vie éternelle et pour les vraies relations avec Dieu et avec tous ceux qui partageront sa gloire. Animé par l'Esprit, vous recevrez le sens de l'exclusivité divine. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est tout simplement lorsqu'on reçoit l'esprit, qu'on vit par l'esprit, il n'y a pas de mélange, pas de compromis, pas de confusion dans nos vies. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Un seul mari, une seule femme. Ce sont les instructions de l'esprit. Je le dis aujourd'hui en sachant que bien d'entre nous sont passés à côté de cette exclusivité, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous ramener à l'unité. Pas d'association idolâtre. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Le temple de Dieu et les idoles, ça c'est le passage de 2 Corinthiens au chapitre 6. Lorsqu'on est en communion, en communication avec l'Esprit, on est notre esprit uniquement dirigé vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers la parole de vérité. Et c'est, on est dans une véritable exclusivité concernant la foi et concernant la marche donc avec Dieu. Et qui va ensemble, animé par l'Esprit, vous recevrez le sens de l'exhaustivité divine. C'est-à-dire que c'est la réalité qui couvre tout le champ de la vie. Je vous cite seulement cette parole de Paul. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. H24, disait Frédéric, tout dans tout ce que nous vivons lorsque l'Esprit vraiment à l'œuvre en nous, eh bien nous le vivons par rapport à Dieu, par rapport à son commandement, par rapport à sa vérité, par rapport à sa sainteté, tout, absolument tout. Et autre axe de réflexion, animé par l'Esprit, vous connaîtrez aussi la proximité divine. Dieu n'est pas loin de chacun de vous, dit l'apôtre aux païens même, à qui il prêchait. Dieu n'est pas loin. Et aux croyants, Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Dieu est proche. Dieu n'est jamais loin. Jamais Dieu n'est loin. Alors, lorsque l'Esprit est à l'œuvre en nous, nous nous sentons proches. D'abord proches de tous les rachetés des nations. On entend parler de chrétiens à l'autre bout du monde, on se sent immédiatement proche d'eux. Même si on ne les connaît pas. Même s'ils ont des modes de vie, des façons de faire totalement différentes des nôtres, on se sent avec eux. Proche avec tous les disciples de votre entourage. Tous les disciples. Enfants, jeunes, adultes, vieillards, anciens, nouveaux. Il est écrit que le Seigneur va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Dans le prophète Joël, au sujet d'un temps de repentance, de deuil, il est dit « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons, l'époux et l'épouse, les sacrificateurs, tout le monde, tous ensemble. » De la même façon, bien sûr, là, de côté positif, dans Jérémie, mais aussi, je crois, dans Ésaïe, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. » Nous sommes proches les uns des autres. dans la foi en Jésus-Christ. Moi, je me suis toujours senti proche des enfants, et ça ne change pas. Chaque fois que je vois un enfant qui s'approche, qui dit quelques mots concernant... Une fois, il y a un jeune garçon qui a dit « Est-ce qu'il y a un service à accomplir pour l'Église ?» Eh bien, immédiatement, je l'identifie comme étant un disciple du Seigneur. J'ai aussi beaucoup côtoyé, pas moi seulement, mais nous avons côtoyé des anciens serviteurs de Dieu, des hommes qui avaient passé toute une carrière dans l'Évangile. Mais combien je les apprécie, combien j'aime entendre ce qu'ils ont à encore communiquer à l'Église. Il y a un de ses frères qui est toujours vivant, le frère Wheeler par exemple. Hein. Il a pris bien de l'âge, il est plus que 90 ans maintenant, mais il parle encore et il fait encore les choses pour le Seigneur, et moi ça me réjouit. Et voilà, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les aînés, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit-Saint, nous sommes proches, nous sentons que nous sommes proches les uns des autres. Proches aussi de ceux qui sont potentiellement sauvés, de ceux, on peut dire, proches des perdus qui se sentent perdus. Alors si vous rencontrez, vous êtes chrétien, que vous rencontrez un perdu qui se sent perdu, immédiatement vous avez votre cœur qui va près de lui. Immédiatement. Voilà ce que l'Esprit-Saint fait. Voilà comment il agit. Esprit d'exclusivité, oui, certes. Esprit d'exhaustivité, esprit de proximité. Nous sommes proches de tous. Nous ne formons pas des petits, on peut dire des petits cercles d'intérêt, des petits cercles de proximité avec des personnes qui nous ressembleraient. Non. L'Esprit nous unit à tous. Et nous formons ensemble donc ce corps de Christ où nous nous apprécions et où nous nous encourageons et nous nous formons ensemble pour glorifier le Seigneur. Donc l'Esprit, en quelque sorte, veut se fiancer à tous. Hein? Il convoite tous les hommes. Et vous le savez, vous le sentez quand vous êtes rempli de l'Esprit. Et ça, parfois d'ailleurs, cela vous brise le cœur, parce que vous êtes proche humainement de quelqu'un, et vous le savez encore loin spirituellement, et ça c'est quelque chose qui parfois peut vraiment vous faire souffrir. Sans l'Esprit, nous n'existons pas en Dieu. Donc que l'Esprit veuille agir puissamment en nous et au milieu de nous. Réclamons sa présence. Alors parfois on dit oui, mais est-ce qu'on doit s'adresser au Saint-Esprit? Non, parce que c'est à Dieu le Père qu'il faut s'adresser, ou à Jésus-Christ, etc. Bon, si l'Esprit parle, je pense qu'on doit pouvoir lui répondre. L'Esprit dit à Philippe, avance. Si l'Esprit parle à Philippe, Philippe peut lui répondre, oui Seigneur, j'avance. Hein? Donc parlez librement à l'Esprit de Dieu, recevez ses communications et il sera à l'œuvre et il saura donc vous faire vraiment grandir, faire des progrès dans tous les domaines de la vie spirituelle et de la vie ecclésiale, puisque c'est bien ça, le lieu de son activité, c'est l'Église. Que Dieu vous bénisse.